Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, vous le savez, je pense, nous sommes en pleine période de collecte des 500 parrainages. À ce jour, le Conseil constitutionnel a enregistré 201 parrainages pour ma candidature. Alors je peux dire que c'est en bonne voie. Si les parrainages continuent d'arriver au Conseil constitutionnel au même rythme, je serai candidate. Évidemment, je resterai une petite candidate, aux yeux des médias en tout cas. Parce que, mis à part les 15 derniers jours où il existe une égalité stricte de temps de parole, les grands médias vont continuer d'organiser deux campagnes parallèles. Vous savez, une campagne pour les grands candidats qui ont le temps de s'expliquer en long, en large, en travers. Et puis, une autre pour les plus petits candidats qui n'auront droit qu'à quelques miettes d'interview par-ci, par-là. C'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données dans les sondages. Autant dire que chaque chaîne peut à peu près faire ce qu'elle veut. Les multimilliardaires comme Bolloré, Lagardère, Bouygues ou Drahi qui ont acheté des chaînes de télé et des journaux, peuvent donc se payer des campagnes électorales sur mesure. Ils peuvent décider quel candidat aura la parole ou pas, et ils ne s'en privent pas. Et je dois dire que ce n'est pas mieux pour les télés et les radios publiques. Alors oui, tout le système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas non plus s'en étonner. Les travailleurs qui manifestent ou sont en grève ne sont pas mieux traités. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent ainsi leur pouvoir. C'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qui est réellement dans le système et qui ne l'est pas. Alors d'un certain côté, pour nous, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage. Nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste et nous n'aspirons pas à en faire partie. Alors, et si je participe à cette élection présidentielle, je ne joue pas pour autant le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi, n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et dans ces élections, nous pouvons faire avancer ce combat. C'est pourquoi j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière. Les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Cette campagne offre en effet un spectacle inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue dans cette campagne. C'est le cas de Fillon, qui a été choisi quand même à la base, s'en souvenir, pour éliminer Sarkozy. C'est le cas de Hamon, qui a sorti Valls. C'est aussi le cas de Macron. Vous savez, cette bulle médiatique qui est en train de devenir le favori. Et en plus de ce casting renouvelé, eh bien, on a droit à des rebondissements, avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, des divisions, et bien sûr avec des démêlés judiciaires, qui rajoutent, il faut le dire, pas mal de piquants à cette campagne. Bon, vous avez forcément suivi le dernier rebondissement du feuilleton Fillon. Pour la première fois, je pense, nous aurons donc un candidat mis en examen. Et vous l'avez entendu, hein, Fillon s'offusque et parle d'acharnement de la justice et de complot politique. Mais qui a toujours défendu la tolérance zéro? Qui a condamné, avant que la justice s'en mêle, les salariés d'Air France dans l'affaire de la chemise? Alors oui, la Fillon a été pris la main dans le sac. Eh bien, il ne faut pas bouder son plaisir de le voir aujourd'hui patauger dans toutes ces affaires judiciaires. Alors oui, avec cette campagne, avec ses coups de théâtre, ses hommes politiques, mais en examen, a de quoi surprendre. Mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique en bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité ceux qui gouvernent depuis des décennies. Et elle a eu raison du ronron de l'alternance gauche-droite. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa prochaine majorité parlementaire. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Parce que, quelles que soient les péripéties politiciennes, le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds, parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Fillon, on a tendance un peu à oublier son programme, mais quand même, il a repris quasiment l'intégralité du programme du grand patronat. La suppression des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Il déclare la guerre aux travailleurs. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais quand même, Macron, c'est le travail du dimanche, c'est la remise des bus sur les routes, c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ces auto-entrepreneurs qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande, pendant 10 ans donc, avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'ISF, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et de l'autre, la suppression de postes de fonctionnaires, lui, c'est 120 000, l'augmentation de la CSG, 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à Le Pen, elle prévoit, elle aussi, des suppressions d'emplois dans la fonction publique et des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Mais où veut-elle prendre l'argent? Eh bien, sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce ou encore à des travailleurs, parfois ici depuis 5 ou 10 ans. Et en voulant taxer leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants, eh bien, elle s'en prend aux immigrés, c'est-à-dire à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle s'en prend à des ouvriers, à des intérimaires. Elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, c'est-à-dire diviser pour régner. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Et pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et les plus pauvres, bien sûr à condition qu'ils soient français. C'est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Alors oui, elle est bien la dernière roue de secours de la bourgeoisie. À gauche, on entend une autre musique. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, Hamon s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Il parle de 750 euros... Bon, pas tout de suite hein, quand même, hein. Mais d'ici peut-être à 2022. Parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et sous-entendu donc de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, ce n'est pas seulement un salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de gagner beaucoup, beaucoup d'argent sans rien faire de ses 10 doigts. Et puis, position significative, Hamon évoque la réaffectation et le conditionnement du CICE. Car, dit-il, ces 41 milliards ont été mal dépensés. Mais il ne demande pas aux entreprises qui ont empoché l'argent de rembourser ou de rendre des comptes. Pourtant, ce serait logique. Quand il y a eu erreur sur la marchandise, eh bien, on demande à être remboursé. Eh bien non, Hamon ne l'imagine pas une seconde, parce qu'il ne veut pas contraindre le patronat à quoi que ce soit et surtout pas à payer. Et en cela, eh bien, il est bien le digne héritier du Parti socialiste. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les Macron, Fillon, Le Pen, Hamon s'opposent. Ils s'envoient des noms d'oiseaux, mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors leur politique, eh bien, elle consiste à les amadouer, à les bichonner. Au nom de l'intérêt des entreprises, c'est-à-dire des capitalistes qui les possèdent et qui accaparent les profits, eh bien, il faut toujours que les travailleurs se plient et acceptent de faire les 4 volontés patronales. Il faut toujours laisser les capitalistes faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Eh bien, je suis candidate pour dire exactement l'inverse. Je suis candidate pour affirmer que les forces vives du pays, c'est nous. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnaud, les Dassault, les Bettencourt sont les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les, sans les conducteurs de train, sans les pilotes d'avion, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes 1000 fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de vie et de travail doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui se tournent aujourd'hui vers le Front National, eh bien, il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut que le camp des travailleurs mette en avant ses intérêts, sa politique, son programme. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat, et à sa suite tous les politiciens, prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commandes assurées et garanties. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Je vais prendre l'exemple de Peugeot. J'aurais pu prendre l'exemple de Renault, parce que de toute façon, ce sont des chiffres qui sont avoisinants. Mais voilà, Peugeot a explosé aujourd'hui ses bénéfices. Hein. Il présente 2 milliards, plus de 2 milliards donc, de bénéfices en 2016. Et bien, sur les trois dernières années, Peugeot a supprimé 17 000 emplois. Pour Sanofi, c'est à peu près la même chose. Hein, depuis maintenant plusieurs années, il présente 7 à 8 milliards d'euros de profits et il a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et il continue encore d'en supprimer. C'est vrai dans tous les grands groupes, dans le secteur bancaire, dans le secteur des assurances, y compris dans le secteur des médias. Tous ces grands groupes se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement. Ah, c'est ça, c'est devenu le mot tabou. Mais en réalité, c'est autant d'emplois qui disparaissent. Et au final, eh bien, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Alors oui, tous ces grands groupes sont aussi les plus grands fabricants de chômeurs. Et je n'oublie pas non plus les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes et les banques soient mises à contribution et qu'ils payent pour préserver tous les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail auxquels il faut ajouter le temps de transport sont devenus insoutenables. Il faut donc soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce que Renault est en train de faire dans son plan d'hyper-compétitivité et qui va imposer donc des heures supplémentaires et des samedis de travailler obligatoires aux salariés. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais 7, 8, 9 ou 10 millions. Alors oui, il faut imposer ces mesures contraignantes au grand patronat. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les hôpitaux ? Regardez la catastrophe de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs ? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société et donc autant d'emplois à créer en face. Alors oui, la répartition du temps de du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. J'insiste parce que le chômage est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, mais aussi il marginalise. Et il pousse à l'individualisme et à la compétition entre travailleurs. C'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. Et à côté de cela, il faut bien sûr augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats, ceux donc qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée, nous explique qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés que les millions de femmes et d'hommes ont à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas, elles. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent. Eh bien, moi, je suis candidate au contraire pour trouver une solution pour les difficultés des travailleurs. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. Et la CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois davantage, 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et en plus de tout ça, il faut payer les impôts, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, ils doivent être transformés en salaire. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Et 1 800 euros net par mois, ce n'est encore qu'un rattrapage. Parce qu'il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 150 euros net, était de 1 000 euros. En 10 ans, donc, le SMIC a augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des PDG sur ces 10 mêmes années? Eh bien, de 65%. Alors, oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut qu'elles suivent les augmentations du coût de la vie, de celle des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts, des taxes, des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation avec celle de l'année précédente, sa facture d'électricité ou d'assurance, pour se rendre compte que tous les prix augmentent. En réalité, entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. La société est riche, elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien la loi est faite pour les couvrir. Prenez cet exemple du groupe Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins dans le pays et que c'est donc 2000 emplois qui sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Un gérant de magasin y est payé 1 400 euros net. Tous les autres salariés y sont payés autour du SMIC. Ce qui a tué Vivart, ce sont des fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe et qui l'ont forcé à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds, à des taux d'intérêt de 11, de 12%. Alors, si les salariés du groupe Vivart avaient connu toutes ces manœuvres financières, eh bien oui, ils auraient pu anticiper, ils auraient pu les dénoncer, s'organiser, se défendre. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG. Bon, l'assistante, là je parle d'une vraie assistante, hein, d'une assistante qui prépare les courriers, qui les tape, qui les envoie. Et oui, collectivement, y compris quand on est tout en bas de la hiérarchie, hein, eh bien on a accès à beaucoup d'informations. Il faut que on regroupe, tous les salariés puissent regrouper ces informations parcellaires et ainsi qu'ils puissent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans les entreprises. Les patrons savent que les travailleurs en sont capables. Et d'ailleurs, ils le craignent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont imposé le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut revendiquer de supprimer ce secret. Et cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations, Nous saurions à quoi nous en tenir, nous pourrions anticiper, nous organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour imposer nos intérêts de travailleurs. Et avec ce contrôle sur les comptes des entreprises, eh bien on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes capitalistes. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Le premier tour de cette élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie, en tout cas pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois, et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin de nous exprimer à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence, contre la politique anti-ouvrière qui est menée par les gouvernements qui se succèdent au pouvoir. Cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de manifestation en mouvement de grève, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1300 euros par mois, les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin, très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable. Parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance. Et je vous rappelle, Hollande l'avait fait de façon spectaculaire en 2012. au Bourget. Mais il faut dire si l'on est prêt ou pas à renverser cette finance. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Avec d'autres, compris avec Dupont-Aignan et même Le Pen, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains. Le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Tout cela, ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques. C'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on appartient au monde du travail, quand on est exploité, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e République ou à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, qui a le pouvoir de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, pour son poste de travail, pour son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études? En fonction de ses envies, de ses passions? Non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Alors oui, parler de souveraineté, c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie. C'est brouiller les consciences des travailleurs. C'est une façon de les détourner de leur combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, c'est-à-dire l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation des exploités qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Alors, bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système, et parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci électoral en dehors des luttes collectives seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères et d'une boussole. Eh bien, il faut que l'élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe que pour le porter à la présidence de la République, eh bien, notre campagne, elle nous aidera, nous, à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Cette année, nous fêtons le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisée pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, sans doute, le plus important, c'est que ce pouvoir a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela ? Aucun. Et même si le stalinisme a fini par prendre le dessus et a déformé, caricaturé, en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ces crises et de ces guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la déchéance morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait aussi le lit de la délinquance et du fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches et toujours plus hautes. Et de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, en réalité, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres et leurs bombes. Ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Ils disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer avoir la retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploité, il faut avoir cette conscience claire que nous sommes tous des migrants potentiels et que ce n'est pas seulement une question de solidarité, mais il s'agit de notre intérêt commun. Il faut nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère. C'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une seule politique qui corresponde à leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien, oui, les travailleurs représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, mais aussi du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Et ils sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques. Parce qu'il en va de la préservation de la planète comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, mais au pouvoir, ils sont bien incapables d'empêcher les catastrophes annoncées pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste, qui ne jure que par ses profits, on peut parler d'écologie, de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Alors oui, bien sûr, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie et la nécessité de gérer cette économie collectivement. Cela illustre la nécessité aussi de planifier, y compris à l'échelle d'un continent et même de la planète, les ressources naturelles. Et cela dépend de la capacité des travailleurs à prendre la tête de la société. Alors, voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une transformation profonde de la société et de l'économie, la perspective d'une société communiste. Alors oui, nous pouvons être fiers de nous revendiquer de ce camp. Depuis des décennies, l'élite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, plus de classe ouvrière. Et aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers, nos villages sont composés de rentiers, de grands capitalistes? Bien sûr que non. De femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles, qui sont au chômage. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants il y a un ou deux ans de cela, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui agissait. Il y avait encore beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, sur les chantiers. Eh bien, il faut que cette classe sociale s'exprime aussi sur la scène politique et dans cette élection. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement, le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous le choisiriez? Eh bien, dans cette élection, on nous demande à peu près la même chose. On nous demande de choisir celui qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui fera reculer nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à les départager, mais l'enjeu doit être d'exprimer nos intérêts, nos perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Et puis croire qu'il faudrait forcément voter utile ou voter pour le moins pire. Pour se protéger, c'est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec les luttes puissantes, avec les grèves et les manifestations. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis, c'est aussi déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas les moyens de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Alors il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à cette soumission et à cette résignation, eh bien oui, on peut être fier d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont faites comme ça. Il fallait un nom et mes camarades m'ont confié la tâche d'être porte-parole. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle ou une campagne personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Et une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi ces millions, il y en a plusieurs centaines qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose de très important. Mais bien plus largement, il y a tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de politique ou de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ces idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions de femmes et d'hommes sont confrontés. Et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées et ils les chercheront. Alors, oui, rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles, donc vous l'avez compris, pour que ce soit une bonne campagne, pour que ce soit une campagne réussie, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne. Et pour finir, un petit effort se projeter en mai 2017, au lendemain de l'élection du second tour. Qu'est-ce qui aura changé pour nous? On ira au travail, pour ceux qui en ont un temps. Les autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. Et on se retrouvera aussi confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social qui est dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, et les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera aux luttes que forcément nous aurons à mener.